Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage. 2 heures pour vous dégourdir les zygomatiques, étoffer votre culture G et noter les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui chaque après-midi s'affrontent à coups de chronique. L'auteur de la plus intéressante repartira avec la prestigieuse couronne en carton de chroniqueur du jour. 2 heures de compétition donc, mais aussi d'espoir. Espoir qui émane d'un roman intitulé « Né sous une bonne étoile », roman qui nous dit que même si l'on est une buse à l'école, un cancre en déshérence grammaticale, on peut réussir dans la vie. Message éminemment émouvant pour moi qui suis le tuteur légal d'Eva Rock.
Tout le monde me demande en me disant « Ah, c'est chouette comme pseudo », mais non, j'ai la chance de s'appeler comme ça.
Elle a la chance de m'appeler comme ça. Vous n'avez rien n'est perdu, Eva. Bonjour déjà.
Ah non, je suis désespérée. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Grâce à Aurélie Valogne.
Bonjour.
Bonjour Aurélie, la musique de Star 90 est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour saluer le parcours qui est le vôtre depuis 6 ans et la publication de votre premier roman « Mémé dans les orties ». Le nouveau s'intitule donc « Né sous une bonne étoile », l'histoire d'un enfant qu'on prenait pour un cancre et qui va se révéler grâce à un prof.
Tout à fait, oui, c'est effectivement un roman voilà, qui parle de seconde chance, qui parle de main tendue, qui parle aussi voilà, de la rencontre d'une vie qui peut tout changer. Et voilà, donc ce gamin, Gustave, va effectivement avoir la chance de rencontrer quelqu'un de bien particulier.
Alors on va évidemment parler de ce roman, source d'espoir pour Eva, et de votre incroyable trajectoire. Mais d'abord, ma chère Aurélie, je vous présente nos deux premiers journalistes en compétition cet après-midi face à vous. Il a fait voler en éclats le cliché de l'informaticien boutonneux. On aimerait tous être sa collègue et qu'il nous reboote en mode sans échec. Eva, la première. Non, on va pas non plus s'envoyer des fleurs, Eva. Il faut que la mission avance, donc on fait une vanne, on enchaîne. Alors, Eva, la première, fantasme sur lui et voudrait bien qu'il soit son mec.
Mais sa femme, elle veut pas.
C'est le seul défaut d'Anissé Mbida, il est marié. Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Mais peut-être qu'il n'est pas fidèle. Vous avez dû marier, mais...
On ne peut pas développer. Inspiré par Aurélie Valogne, notre invité qui s'est formé à l'écriture via un atelier online, on va en parler, et aussi peut-être par le coronavirus qui va peut-être de plus en plus limiter les réunions physiques, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui, Anissé, des formations à distance.
Oui, vous vous souvenez de cette époque bénie hein, où Internet était conseillé comme des autoroutes de l'information, la bibliothèque mondiale, le savoir-faire pour tous. Et qu'est-ce qu'on a eu à la place? On a eu le revenge porn, la porno-revanche, les fake news, etc. Et bien, je vais vous montrer que tout n'est pas tout perdu, qu'on peut encore énormément apprendre avec Internet.
Tout n'est pas tout perdu, ça aussi, c'est bien dit. On sent qu'on démarre une émission placée sous le signe de la littérature, c'est beau. À ses côtés, Aurélie Valogne, même si d'aventure son sujet venait à vous décevoir, je vous demanderai de bien vouloir faire montre de mansuétude à l'égard d'Axel de Tarlet, notre expert éco, qui en a, comme on dit trivialement, gros sur la patate, ou plutôt, pour faire écho à ses rêves de jeunesse, big on the potato. Comme vous, Aurélie, Axel avait un rêve, celui d'être lead singer d'un groupe de rock. Il l'a été au tournant des années 80, mais ça n'a pas duré longtemps. Non. Et lundi, lorsque j'ai fait écouter un extrait de ce qu'il faisait à l'époque à Philippe Manœuvre, le pape du rock en France, disons que ce dernier n'a pas été aussi emballé par le groupe Venin que votre éditeur Michel Lafon en 2014 par votre premier manuscrit.
82, il y avait Venom. Alors Venom.
Et nous, c'était Venin.
Rituel, pour ne pas dire sardonique, qui résonne encore dans les oreilles fragiles du malheureux Axelou. Bonjour Axel de Tarlet.
Bonjour, je me suis recyclé dans le journalisme économique.
Oui, avec la réussite.
Avec un succès.
Mitigé. Vous êtes combien du classement? Il est combien du classement, Axel? On peut me dire en régie? Oh, moi je dis que vous êtes 8e à peu près. Autant dire que tout n'est pas perdu. Avec quel sujet allez-vous relever la tête aujourd'hui, Axel?
Avec le marché du livre. Le marché du livre qui marche moins bien parce que, justement, on va sur Internet. On fait du, comme vous dites, là, du revenge porn, etc. Au lieu de lire des bouquins.
Ah bon, on prend moins de temps pour lire.
Regardez, dans le métro, les gens ne lisent plus Proust. Ils font du Facebook ou du Amazon, etc.
Ils lisent sur leur écran, ils lisent quand même.
Ça fait longtemps que les gens ne lisent plus Proust dans le métro. Hein.
Voilà. C'est lourd.
C'est effectivement trop lourd. Aurélie Valogne, si, ils lisent du Aurélie Valogne.
Oui, voilà. Vous allez aller dans ce sens-là.
Bien sûr.
Il est 9e, vous êtes 9e au classement.
J'ai été 9e sur combien?
Vous êtes 9e sur 10. Merci, c'est nul. Le programme est donné, l'équipe est sauvage. Vous démarrez.
L'équipe est sauvage.
C'est donc, on peut le dire, la big boss de la littérature française qui nous accompagne cet après-midi. Aurélie Valogne, nous sommes très heureux de vous recevoir. Le jour de la sortie de votre 6e roman intitulé « Né sous une bonne étoile », publié aux éditions Mazarine. On va en parler tout au long de l'émission, mais avant ça, j'aimerais quand même éclaircir un petit mystère. Tous vos romans sont attendus par vos fans. Le monde de la culture dit que vous êtes la papesse de la littérature populaire. Vous faites partie des 5 auteurs les plus lus en France. Comment expliquez-vous néanmoins que votre nom ne soit pas encore aussi connu que celui de Marc Lévy ? Vous avez vendu plus que Marc Lévy en 2018, j'ai lu.
Je suis encore toute nouvelle, j'ai envie de dire.
C'est-à-dire que le succès est récent.
Le succès est récent. Le succès s'est fait grâce aux lecteurs. Donc le bouche à oreille m'a porté depuis l'auto-édition jusqu'à effectivement aujourd'hui une attente des lecteurs qui est très très grande. Donc je pense que c'est surtout pour ça. Et puis après, les choses se feront avec le temps. Moi, je fais confiance à l'avenir.
Alors, racontez-nous comment vous êtes devenu écrivain, écrivaine, je ne sais pas ce que
romancière.
Vous...
Romancière,
voilà, c'est plus simple. Comme ça, on évite les auteurs et les autrices. Comment ça s'est passé ? Il y a eu un changement de vie à un moment.
Il y a eu un changement de vie à un moment donné. Donc, mon mari a été muté en Italie. J'ai dû démissionner pour le suivre. Avant le coronavirus. Non, je devais y être hier en plus. Donc, j'ai annulé. Avant le coronavirus. Et il se trouve donc que j'étais dans une phase où ça n'allait pas terrible. Hein, j'avais plus de travail, je sortais d'un baby blues, j'avais une cousine à moi, ma cousine de cœur du même âge, on lui détecte un cancer du sein. Donc quand on se dit qu'on a 29 ans et que tout peut s'arrêter, d'un seul coup on se rend compte que tout peut s'arrêter. Et j'avais ce rêve récurrent qui revenait, qui était ma tombe, que je voyais marquée Aurélie Valogne, écrivain. Sauf que de toute ma vie, je n'avais jamais écrit une ligne, ni un journal intime, rien du tout. Et donc c'est à ce moment-là que le déclic a commencé à se faire, en me disant si tout s'arrêtait demain, je veux avoir accompli mon rêve de petite fille, qui est d'écrire un roman. Pas être édité, juste l'écrire, mettre un point final et être fière. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Oui, vous avez fait lire à vos proches dans un premier temps, vos proches ont dit c'est génial,
exact.
Mais vous avez eu la lucidité de vous dire bon, c'est mes
c'est
proches,
menteurs, ouais.
Et ensuite vous avez fait la démarche de le mettre en ligne.
Exactement, en fait j'avais qu'une trouille, c'était de l'envoyer à des éditeurs pour recevoir la lettre type de refus. Ouais. Et je me suis dit, mais pour la première fois que je mets mes tripes sur la table, je veux pas mettre mon rêve dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc en fait, j'ai cherché l'avis neutre de lecteur et j'ai trouvé l'auto-édition qui est commencée à peine. Et j'espérais avoir l'avis de son lecteur pour savoir comment retravailler mon texte. Moi, j'y croyais, mais j'avais encore des doutes. Et en fait, là, ça s'est emballé d'un coup. Je l'ai mis sur la plateforme donc KDP. Et d'un coup, vraiment, je suis rentrée dans le top 20 des meilleures ventes. Et ensuite, numéro 1. Et c'est là où ça m'a donné un peu plus confiance et je l'ai imprimé et je l'ai envoyé à des éditeurs.
Un million de livres vendus, ça donne un peu confiance en soi. Normalement, ça marche. Son nouveau roman, Né sous une bonne étoile, est disponible. Aurélie Valogne est notre invitée cet après-midi sur Europe.
Europe 1.
Et si le livre était le grand gagnant de l'épidémie de coronavirus ? C'est l'hypothèse assez couillue de notre expert éco Axel de Tarlet qui nous dévoile les vrais chiffres du livre en France, où on va voir que derrière les ventes stratosphériques des stars de l'édition comme Aurélie Valogne, la plupart des auteurs galèrent grave. Axel de Tarlet lui-même, pour booster les ventes de son dernier livre, est obligé de se rendre à la Fnac, de glisser le livre dans la main du chaland et de le guider jusqu'à la caisse en lui susurrant
« Allez, crash, crash !»
Dur métier que celui d'écrivain, tout de suite.
16h-18h, Mathieu Noël.
Muscler notre culture G sans pour autant choper une méningite, vous écoutez l'Équipée Sauvage. 2 heures d'une chevauchée intrépide sur les terres fertiles du Gai Savoir, en compagnie aujourd'hui de la star de l'édition, Aurélie Valogne, l'écrivaine aux plus de 2 millions de livres vendus. Le petit dernier s'intitule « Né sous une bonne étoile ». On continue d'en parler, mais l'heure est venue d'entrer dans le vif de la compétition. Aurélie, je vous rappelle qu'un seul de nos journalistes sera élu chroniqueur du jour, peut-être celui qu'on appelle toujours le « Dauphin d'or ». Ce n'est pas son surnom, c'est un prix qu'il a gagné et qui récompense le meilleur journaliste économique de France. Bon, ok, en 2003, mais quand même, c'est mieux que rien. Ça lui permet de frimer aux soirées du CE, ça et évidemment ses prestations dans le groupe Venin.
On n'était pas commercial.
Allez Axel, ça c'est sûr. 9e du classement général, il est temps de se remettre en selle. Aujourd'hui, vous nous révélez les vrais chiffres des ventes de livres en France.
Voilà, donc les chiffres ne sont pas bons, ça baisse, moins 4,9% sur les derniers chiffres pour les ventes de livres. Mais néanmoins, j'ai envie de dire, c'est pas mal quand même, une baisse de 5%. C'est pas mal parce que l'autre jour, on faisait Philippe Manœuvre là, sur les ventes de disques. Là, ça s'est effondré de 80%. Mm-hmm. Et donc finalement, dans un monde où tout part sur Internet, eh bien, il y a un truc physique qui résiste, c'est quand même le bon vieux livre. La liseuse, ça marche très peu.
Ça marche peu, ça ?
À peine 5% des Français disent lire de temps en temps sur Internet. 95% donc continuent d'acheter des livres papier. Alors la question est, pourquoi est-ce qu'on achète toujours des livres papier ?
Parce qu'ils ont une odeur, nous expliquait Nicolas Carreau l'autre jour, qui était
prof. C'est vrai, il y a le plaisir du papier, c'est l'une des raisons. Il y a une deuxième raison, c'est qu'en France, le prix du livre est très encadré. Et donc si vous achetez votre bouquin sur Internet, vous aurez une petite réduction de 15 à 20%, mais vous ne pourrez pas le revendre, vous ne pourrez pas le passer à quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est un petit peu une impasse que de lire un livre sur Internet. Et la troisième raison, c'est le travail des libraires. les libraires ont su faire de leur boutique un lieu de vie. Et très souvent, vous savez, quand on a les enfants en bas âge, qu'est-ce qu'on fait le samedi après-midi?
Ah, tout le temps.
On les emmène à la FNAC, aller au rayon livre.
Ou chez le petit libraire de son quartier, quand on est un bobo comme moi.
Ou chez le petit libraire de son quartier. Tout ça pour dire que la librairie est restée quelque chose d'attractif, qui donne envie d'y aller, et du coup, on achète. Et je dis ça parce que, alors, ce n'est pas votre cas, mais bien souvent, les auteurs se plaignent de ce que les libraires, au fond, prennent tout l'argent. Ils prennent 30 à 40%. Quand vous achetez un bouquin, il y a 30 à 40%.
Ça, c'est intéressant. Combien sur un livre, combien
de 20 euros, eh ben, il y a donc 40%. Donc, 8 euros qui part pour le libraire.
Combien pour l'auteur?
L'auteur à peine 10%. Mmh. Alors, les auteurs disent... Attendez,
même vous, Aurélie, vous avez négocié mieux.
Bah, j'ai négocié.
Ah, bien joué.
Mais on n'est pas du tout à ces niveaux-là. Donc, quand on touche 2 euros, on est content.
D'accord, voilà. Sur un livre. Okay.
Quand, voilà, un auteur, il touche à peine 2 euros sur un livre. Et c'est le libraire qui, lui, va gagner 8 euros, beaucoup plus que moi. Et en fait, on se rend compte que le libraire, il fait beaucoup pour porter les ventes de ce livre et on leur doit beaucoup. À mon avis, si les auteurs touchent peu, parce que c'est vrai qu'en France, les auteurs qui peuvent vivre de leur littérature, je crois, se comptent sur les doigts d'une main. Il y en a très très peu.
Je pense qu'il y en a un peu plus.
Je pense qu'il y a une dizaine, Axel, qui doivent pouvoir vivre.
Oui, c'est ça, les doigts des deux mains.
Les deux mains.
Sauf
avec les orteils. Mais vous savez à quoi c'est dû? C'est dû à une profusion. Il y a beaucoup trop de livres qui sortent. Vous savez combien de livres sortent chaque année en France? Plus de 40 000.
Ah oui.
Chaque jour, ouvrez, vous avez 200 nouveaux livres qui sortent. Et un livre en moyenne se vend à moins de 5 000 exemplaires. Donc c'est pour ça que les auteurs ont du mal à vivre de leur littérature, parce qu'ils écrivent des livres qui ne devraient pas être publiés, en fait.
Mais quand vous dites 40 000 livres, c'est tout compris. Hein. C'est pas que des romans. Je pense qu'il y a aussi les livres de cuisine, des livres, vous savez, des livres pratiques, du jardinage aux livres jeunesse aussi. Enfin,
rendez-vous compte, chaque jour, il y a 200 nouveaux bouquins qui sortent. Alors imaginez-vous le libraire, s'il faut que chaque jour, tiens, il y en a 200 nouveaux et ils n'arrivent pas en un exemplaire. Il y a une profusion quand même.
Justement, comment on fait, Aurélie Vallone, pour sortir du lot à ce point? Parce que ça paraît fou quand on se dit que les livres se vendent à 5000 exemplaires.
4700 même.
En moyenne, comment vous faites pour en vendre 1 million? Qu'est-ce qui fait que tout à coup votre récit, aussi qualitatif, aussi brillant soit-il, plaise à tant de monde d'un coup?
Je pense que ce sont des histoires qui les touchent parce que ça parle de leur vie, de leur quotidien. Moi, je fais des romans contemporains qui sont pleins d'émotions. Ce qu'on vit au quotidien, on le retrouve effectivement dans mes livres. Et c'est vraiment les lecteurs qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui me portent. Et c'est un bouche à oreille incroyable parce qu'un livre qu'ils ont profondément aimé, ils ne peuvent pas s'empêcher de le donner à quelqu'un qu'ils aiment en disant « Tu dois lire ça, c'est vraiment ça. Tu dois lire ça. »
Racontez-nous ce que vous devez à Bernard Werber.
Ah oui.
Qu'on a reçu ici.
Alors je ne veux rien voler à Anissa pour sa chronique sur les tutos, mais effectivement c'est un gros coup de hasard. Moi donc j'ai commencé à écrire en Italie pour la première fois et je ne savais absolument pas comment faire. Contrairement à Gustave, mon héros, j'étais plutôt scolaire et donc je me suis dit mais je ne sais pas comment on écrit un roman, donc je vais chercher atelier d'écriture sur YouTube. Donc je tape atelier d'écriture sur YouTube et je tombe sur une vidéo de Bernard Werber qui arrive comme ça dans une grande assemblée avec un paperboard sur le côté, un crayon, et il dit j'ai rien préparé mais je vais vous donner en gros 10 conseils. En fait il savait exactement ce qu'il faisait et premier conseil, posez-vous la question de votre envie d'écrire. Si c'est pour raconter vos déboires avec votre conjoint, votre mère, etc., ça n'intéressera personne. Si vous voulez faire une psychothérapie, épargnez-nous la coupe des arbres. J'ai une bonne question, pourquoi j'ai envie d'écrire? Et là donc même moi je me suis arrêtée dans la vidéo et j'ai commencé à réfléchir. Je suis revenue quelques jours après, deuxième point, préparer un plan. Effectivement, retenez-vous d'ouvrir l'ordinateur, ça vous n'aurez pas peur de la page blanche. Vous réfléchissez pendant des mois et des mois à votre histoire et quand
avant
vous avez
d'ouvrir
tout,
le document Word.
Exactement, quand vous avez tout, là vous ouvrez l'ordi et ça sera fluide. Donc il a donné des conseils pratiques d'une générosité incroyable parce qu'il aurait pu faire payer ce tuto. Et aujourd'hui, moi ça m'a donné les clés à un moment donné où j'avais vraiment besoin de savoir de manière pratique comment on se lance dans l'écriture.
Et d'ailleurs, vous lui rendez hommage dans le roman, à Bernard Werber.
Je lui rends hommage, effectivement, avec une histoire qu'il raconte souvent, où une des profs, je ne sais pas si je peux raconter, sa prof lui demande de raconter une petite histoire toute mignonne, je ne sais pas s'il a 10 ans, et il explique, donc c'est l'histoire d'une puce née d'un père puceau et d'une mère pucelle. Et je trouve ça très, très drôle, donc effectivement, je lui ai emprunté.
C'est très mignon. Axel de Tarlet, vous avez un bouquet final dans votre chronique, une chute?
Non. Ah,
mais moi, j'ai une chute. Moi, j'ai une chute pour vous.
Aurélie, vous êtes vraiment l'invité idéal pour Axel.
Voilà, je vous sauve. Non,
merci beaucoup. Tel Gustave, il faut que je me révèle avec cette chronique.
Non, mais c'était une chronique vraiment intéressante. Il y avait des chiffres que je ne connaissais pas, donc merci.
Ah,
mais c'est vrai que moi, je resterai aussi sur une note très positive, parce qu'effectivement, on dit qu'on vend moins de livres au total. Effectivement, au moins 5, bon, bah, c'est un constat. Mais par contre, il y a plus de personnes qui lisent en France. Aujourd'hui, ce qu'on constate, ce qu'on voit, c'est que c'est les gros lecteurs qui lisent un peu moins de livres par an, mais on a recruté beaucoup de nouveaux lecteurs, notamment avec la lecture plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a des gens qui avant ne lisaient pas du tout, se remettent à lire. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle, et notamment grâce aux libraires qui recommandent des livres plus faciles d'accès.
Merci en tout cas à Aurélie Valogne et Axel de Tarlet, dont c'était la chronique, une chronique à quatre mains finalement.
Avec les doigts de pied.
Est-ce que vous aurez les trois points ou est-ce que je devrais donner des points aussi à Aurélie
là.
Je ne sais pas, il faudra les diviser avec l'invité.
Europe 1.
À suivre, les secrets d'Aurélie Valogne, notre invitée qui, de Mémé dans les orties à Minute Papillon, en passant par En voiture Simone, a déjà vendu des millions de romans. Aurélie qui a eu le déclic de l'écriture, on le disait, lors d'un atelier animé par l'ami Bernard Werber, un de nos tout premiers invités dans cette émission, qui avait senti que les audiences allaient grimper.
Je pense que ça va marcher en Bretagne.
Ah, il avait vu juste. Quel amour, Bernard. On se retrouve avec Aurélie Valogne juste après Family Affair, Sly and the Family Stone sur Europe.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Notez sadiquement les journalistes d'Europe 1 pour que la direction des ressources humaines puisse plus facilement identifier qui bosse vraiment et qui tire au flanc n'est pas la seule raison d'être de l'équipée sauvage. Ici, entre deux bastons de journalistes, on aime aussi prendre le temps de découvrir une personnalité, découvrir surtout ce qui se cache derrière son image médiatique. Par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure et qu'il a eu un impact majeur dans la vie de notre invité du jour, moi j'imaginais Bernard Werber, l'auteur des Fourmis, comme un type discret, timide et même un tantinet pudique. Quand il m'a dit dès l'intro
« Ok, je te promets du sang, de la chic et du molar. Ma chatte, elle est nymphomane et narcissique et mégalomane. »
J'ai compris contre l'image que projetait et qui en était vraiment, il y avait parfois un immense décalage. Alors comme ça avait bien marché la dernière fois, je retente. Aurélie Valogne, moi, je vous vois comme une femme discrète, timide, limite un peu pudique. Je me trompe ?
Que répondre après ça ? Oui, tout à fait.
Oh oui, vous êtes tout à fait ça. On parle de Né sous une bonne étoile, votre tout nouveau roman qui sort aujourd'hui. Votre héros, c'est Gustave, un petit garçon pas très doué à l'école, mais qui va se révéler grâce à un prof. Un jour, Gustave tombe sur une citation d'Albert Einstein affichée dans sa classe qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper aux arbres, il passera sa vie persuadé qu'il est totalement stupide. » Ça résume bien le parcours scolaire de ce garçon.
Ça résume complètement. Et c'est vrai que cette phrase, elle me donne des frissons juste de l'entendre, parce que voilà, ça, c'est un roman qui parle notamment de l'intelligence, à quel point l'école a tendance, voilà, parfois, à, voilà, c'est pas évident pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour l'école. Et la question de ce roman aussi, c'est de savoir, mais est-ce que c'est pas à l'école d'être fait pour nous. Et on a tous des souvenirs d'école, parfois très bons, parfois moins bons. Et il y a certaines petites phrases qui font mal, qui blessent à vie. Et les profs font vraiment ce qu'ils peuvent. Mais les enfants, alors, sont en construction à cet âge-là. Donc c'est parfois effectivement compliqué. Mais cette phrase est vraiment clé pour le roman.
Alors il est tout à fait juste que le système scolaire formate pour une certaine forme d'intelligence. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas adapté à ça ? Parce qu'il faut bien se taper un certain nombre d'années dans ce système scolaire. Donc comment on fait quand on dit qu'on a un enfant qui n'est pas adapté d'évidence au système scolaire, qu'est-ce qu'on lui dit ?
Qu'est-ce qu'on lui dit ? Je pense qu'il a besoin d'être entouré et d'être rassuré. Après, moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout enseignante. J'en ai interviewé énormément pour ce roman. J'ai vu des orthophonistes. Je pense qu'il faut mettre en place des structures qui prennent en charge différemment ces enfants atypiques. Et je ne dis pas forcément d'avoir des auxiliaires de vie qui viennent en classe et qui accompagnent les enfants, mais juste se dire, bah, chacun a son talent, il faut juste se trouver, prendre le temps. Et on n'est pas forcément pressé, on va tous dans la même destination. Donc voilà, il faut respecter l'enfant et respecter aussi le prof qui fait souvent ce qu'il peut.
Son nouveau roman, Né sous une bonne étoile, sort aujourd'hui. Aurélie Valogne, l'étoile de l'édition française, passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, il se prépare sous l'œil gourmand d'Eva. Il échauffe ses longs doigts musclés pour mieux épouser la forme de la souris, déboutonne un peu sa chemise pour se sentir plus à l'aise. Ses pectoraux sont si proéminents. Ça va, Eva ?
Il fait un petit peu chaud dans le studio. Et comme j'ai déjà enlevé ma veste.
Bref, Dani Bida, notre expert innovation, s'apprête à nous guider dans la jungle des formations à distance. Est-ce la panacée, ces formations à distance, ou bien faut-il faire attention aux arnaques ? Restez bien à l'écoute.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures d'une balade rieuse dans l'actu en compagnie d'un invité d'honneur aujourd'hui, l'auteur à succès Aurélie Valogne qui publie aujourd'hui même Né sous une bonne étoile, son 6e roman. Alors, balade rieuse dans l'actu, ok, mais escortée. Car là où nous entraîne maintenant notre expert high-tech Anis Mbida, le net, le World Wide Web, comme dit ma tante Josie, le danger est au détour de chaque page, de chaque onglet, de chaque cookie, au détour de chaque chat avec un inconnu qui vous propose vite des trucs chelous.
Montre-moi ton kiki, par exemple.
Heureusement, pour nous guider dans ce monde hostile, Anis Mbida est là. Aujourd'hui, vous nous parlez des MOOC. Qu'est-ce qu'un MOOC, Anis ? Il faut expliquer à ma tante Josie.
Alors, MOOC, si je veux traduire, c'est Massive Open Online Courses. Ça veut dire, grosso modo, c'est une bibliothèque de cours sur Internet. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des cours parfois très interactifs, avec des vidéos, avec des QCM, etc. C'est très, très... Ça se développe énormément. Il y a des milliards, mais des milliards, milliards de sujets qui sont développés, parce qu'on a tendance à dire qu'Internet, c'est du buzz, c'est des réseaux sociaux, mais ça peut aussi être un très bon outil d'apprentissage pour découvrir des vocations. Oui. Vous nous avez expliqué, Aurélie, que la vocation, l'envie d'écrire, en tout cas, se préparer mentalement à l'écriture, ça a été fait par un tuto sur oui. YouTube. On pense que les tutos YouTube sur YouTube, c'est simplement des jeunes oui. filles qui apprennent à se maquiller.
Ou des garçons, blanquette de veau, quoi.
Ouais. Ou des garçons qui trucident des zombies. Non, on peut avoir des choses très, très intéressantes avec des sujets extrêmement variés. Alors, du côté artistique, moi, j'ai noté qu'il y a François Berléand qui explique comment devenir acteur, comment ne pas devenir acteur.
Les studios comment ne pas devenir acteur.
Oui, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les capacités d'y aller, c'est exactement comme pour l'écriture. Chantal Thomas qui explique la création de mode, tout ça c'est des masterclass qui sont mises en ligne sur Internet.
Mais attendez, ils font tout ça gratuitement là ?
Non,
si j'étais François Berléand.
Il y en a certains qui sont gratuits directement sur YouTube, mais sinon il y a des organismes, notamment des MOOC, très formatés, et évidemment quand les choses sont de qualité, il faut souvent les payer. Alors là on parle de sujets artistiques ou des sujets du spectacle, mais ça va très très loin ces fameux MOOC. Il y a énormément de sujets sur la gestion, le marketing, les sciences, le développement personnel. On en trouve un peu partout. Par exemple, moi j'ai par exemple un sujet comme l'intelligence artificielle, c'est peut-être une des compétences les plus réclamées aujourd'hui. Il y a un MOOC notamment qui est très connu, un MOOC qui est au CNAM, celui du site du CNAM, un MOOC gratuit, qui explique même aux personnes qui ne sont pas des mathématiciens, qui ne sont pas des scientifiques, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui se développe, comment s'intéresser, comment pratiquer, comment y aller tout doucement. C'est des cours qui durent plusieurs semaines si on veut les suivre, et même certains sont sanctionnés à la fin par un diplôme. Mais en tout cas, vous avez fait la formation et donc ça veut dire quelque chose.
On peut le mettre sur son CV.
Oui, ça veut dire quelque chose.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Alors, on a, je vous ai parlé sur du CNAM, si on cherche la question qu'on se dit, mais il y a des milliards de cours en ligne, comment je trouve les bons ? Alors, moi, je vais parler de ceux du CNAM, on parle de l'intelligence artificielle. Je sais pas, des sujets comme la mécanique automatique et la production, la psychologie au travail. Il y a des sujets extrêmement variés. Il y a des cours qui sont plus souvent payants. Sur tous les sujets à la mode, c'est chez LinkedIn. On pense que LinkedIn, c'est simplement de la mise en relation, mais il y a beaucoup de cours de formation sur des compétences très, très pointues. Une société qui s'appelle Udemy aussi, Open Classroom, où pour tous les sujets à la mode, par exemple, le management compassionnel, le marketing de conversation.
C'est le management que je pratique moi, non ?
Oui.
Un petit peu.
Alors, vous n'avez pas fini le cursus, en
non,
fait.
Non, il n'a pas commencé.
C'est ça, valider la formation. Mince.
Je sais pas, gérer son e-réputation, la méthode Six Sigma ou la méthode Scrum, c'est des sujets qui sont très à la mode aujourd'hui dans les entreprises. Eh bien, on peut aller informer à son rythme, c'est surtout ça qui est intéressant, tranquillement, en allant sur les cours sur Internet. Ça va très loin. Il y a aussi, pour son savoir-faire universitaire, si on veut être... La plupart des grandes universités mondiales ont mis leurs cours en ligne sur Internet. Il y a des sites comme EDX, Coursera, France Université Numérique, où c'est l'ensemble des grandes écoles françaises qui ont mis leurs cours en ligne. On peut les suivre directement en ligne. C'est extrêmement intéressant. Et même pour des notions plus simples, on en revient à YouTube. YouTube, si vous voulez, par exemple, savoir comment faire un tableau croisé dynamique ou faire un public postage sur Word.
Tu sais même pas ce que ça veut dire.
Ah, ouais.
Je note de moi. C'est pas gentil, Aurélie.
Pour une fois, j'avais compris, moi.
C'est pas gentil, je suis juste nul.
Vous allez sur YouTube et on vous explique ça par le menu. C'est très bien fait.
Vous, maintenant que vous êtes au top, Aurélie, vous faites vous-même des tutos, comme Bernard Werber le faisait. Vous expliquez aux gens comment faire des romans.
Non, en fait, c'est vrai que c'est une question que je me suis déjà posée. J'ai beaucoup de demandes parce qu'il y a beaucoup d'écrivains en herbe qui regardent mon parcours avec des grands yeux, notamment parce que je suis passée par l'auto-édition. Moi, aujourd'hui, mon énergie, effectivement, je la mets plus sur les romans que j'écris et la démocratisation de la lecture. Donc, je vais beaucoup en école. Par contre, un jour, je pense que effectivement, je donnerai des cours d'écriture, mais j'ai pas encore l'occasion de le faire. J'ai pas le temps.
Et vous n'avez pas le temps. Anis,
il y a un sujet qui a du mal à se développer, c'est l'apprentissage des langues, parce que il faut pratiquer. C'est pas simplement écouter quelqu'un. On peut apprendre certaines notions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en développe aujourd'hui des podcasts en anglais. Donc, on écoute dans le métro, dans les transports, etc. Et on s'informe de la langue. Il y a un truc très intéressant, c'est des plugins sur Netflix. pour apprendre la langue en regardant ses séries préférées.
C'est génial,
un système
ça.
Qui met deux sous-titres en même temps. Ouais. Vous avez les sous-titres en anglais, les sous-titres en français. Et quand vous ne comprenez pas un mot, vous pouvez cliquer dessus, il donne le dictionnaire. Vous pouvez ralentir la vidéo pour pouvoir bien entendre ce qui se passe. Et
donc, mais là, tu regardes un épisode de Game of Thrones, ça te met trois soirs à regarder. Quoi.
Oui, mais là, le but du jeu, c'est pas de regarder la série.
Oui,
c'est,
j'ai bien
notamment,
compris,
il faut
oui.
le faire sur des séries qu'on connaît déjà. Mmh. Comme ça, on n'est pas obligé on se déconnecte l'histoire de l'apprentissage, mais ça permet d'apprendre du nouveau vocabulaire et surtout de s'habituer ses oreilles avec l'accent qui n'est pas forcément évident.
Oui, j'ai fait des cours de l'histoire de l'art avec un MOOC.
Super, superbe intervention. Merci beaucoup, Eva, pour cette petite précision, cette info en plus qui ravira nos auditeurs.
Voilà,
merci, Anis et Mbida. Votre chronique vous permettra-t-elle de décrocher la précieuse couronne de chroniqueur du jour? Que vaut Axel de Tarlé face à vous?
C'est une tapette sur un moustique.
Non, je vous en prie, restons chic et sport, les amis.
Europe 1.
Dans un instant, une séquence à l'issue de laquelle notre invité de vendredi, Cadmerat, s'était exclamé
« Ça déchire sa race, qui tue ?»
Il venait de triompher d'Evaroc sur l'épreuve du quiz.
Ah oui.
On lui a pas dit qu'en 127 quiz contre l'invité, Eva avait perdu 121 fois, histoire de pas gâcher sa joie.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est une compétition dans la compétition. Chaque jour, aux alentours de 5h-20, Evaroc défie l'invité de l'équipe est sauvage sur un thème qui a priori la défavorise. Aujourd'hui, vu qu'on reçoit Aurélie Valogne, dont les romans se vendent à des millions d'exemplaires, le thème devrait être la littérature. Mais attention Aurélie, une femme blessée est extrêmement dangereuse, or Eva est extrêmement blessée. Depuis cette réflexion assassine de son collègue Axel de Tarlé lundi, qui s'étonnait qu'elle puisse lire avec tant d'aisance le texte rédigé par une autre journaliste qui n'avait pas pu venir ce jour-là et qu'elle remplaçait gentiment au pied levé. Réflexion d'une muflerie sans nom.
T'es une speakerine Eva en fait.
Eva est remontée à bloc, prête à faire bouffer à Axel les pages saumon du Figaro.
T'as
voici notre
aussi,
quiz. Denis Fabre qui est de Nice comme vous, non?
Mais oui, c'est pour ça que
j'ai c'est pour ça.
C'est pour ça que je dis ça.
J'ai compris la vanne, mais à retardement.
Aurélie
Valogne pour le duel qui vous oppose à Eva aujourd'hui. On va jouer à titre ou pas titre. Un quiz.
Voilà.
Non, pas le jeu du titre avec les films pornographiques,
d'accord.
Eva, auquel vous jouez le soir. Non. Un quiz au principe très simple. Je vous donne des titres d'ouvrages. Vous me dites si vous pensez que oui ou non, ces livres existent vraiment ou s'ils sont totalement inventés.
C'est parti.
Eva Rock, on commence avec vous.
Oui.
Pourquoi cette musique? Ah oui, d'accord, oui, pardon. Non, mais ça ressemble tellement à la musique d'un porno ukrainien. J'ai oublié le lien avec la littérature. Et Baroque, on commence avec vous. Je m'appelle Jeanne Masse. Vrai ou faux titre?
Elle est capable d'avoir sorti son autobiographie.
Réfléchissez. Allez, bien, Eva.
Je dis vrai.
Vous dites vrai?
Oui.
Est-ce que vous avez vraiment bien réfléchi? Suffisamment?
Que je réfléchisse ou pas, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Hein.
Bonne réponse. Vrai titre. Mais pas du tout écrit par Jeanne Masse. Écrit par Thomas Lélu en 2007 aux éditions de La Nouvelle Génération. Jeanne Masse est un homme, videur dans un bar. Il est persuadé que son patron a été tué par deux ours roses. Ça donne envie de ne pas en savoir plus.
Oui, d'accord.
Aurélie Valogne, autre titre. Avant d'être une femme, j'étais une femme. Vrai ou faux titre?
C'est stupide, hein. Vous pouvez dire que c'est stupide comme quiz.
Oui, je vais dire non.
Bonne réponse, c'était un piège. Eva Rock.
Ah, c'est tout.
Comment
ça? Oui, vous dites c'est un piège et on l'a inventé, quoi, voilà, c'est tout.
Mais je n'ai pas à me justifier, Eva.
Ah oui.
On n'est pas dans une démocratie ici.
C'était un vrai titre.
Non, c'était un faux titre et je n'ai pas à me justifier. Eva Rock. Une moule sur une ordure qui picolait d'une main dure. Bel hommage à la comptine, mais est-ce un vrai livre?
C'est trop long pour un vrai titre.
Ah non, je dis vrai.
Vous dites vrai, c'est une mauvaise réponse. Et pas d'explication non plus, c'est juste un trip du mec qui a préparé ce quiz. Aurélie Valogne, n'allez pas croire qu'ailleurs l'herbe est plus verte, elle est plus loin, et puis c'est tout. Selon vous, vrai ou faux titre?
Je dirais trop long, donc non.
Vrai.
Ah, vrai.
Écrit par Muriel Levrault en 2007. Elle élève également des escargots. J'aime bien les précisions qu'on me met. Ça pouvait éclairer sur les divagations de la personne. Eva Rock.
Oui,
le bonheur pour une orange n'est pas d'être un abricot. Vrai ou faux?
Oui, c'est
livre.
Vrai, ça.
Comment vous le savez?
Mais je sais pas, ça me dit quelque chose, le truc de l'orange. Je dis vrai.
Eh bien, écoutez, vous dites vrai. Écrit par Karine Prejokaj. J'écorche certainement le nom, qui apprend à 30 ans, et c'est pas drôle, qu'elle a un cancer. Elle raconte son combat, préface de Jean-Louis Servan-Schreiber, comme quoi il ne faut pas forcément juger un livre à son titre. Aurélie, que c'est triste Venise, enfin pas toujours, des fois ça peut quand même être joyeux, notamment au moment du carnaval.
J'hésite beaucoup, mais je dirais faux titre.
Oui, cette fois-ci, votre bon sens est gagnant, c'est un faux titre. Et Baroque, accrochez-vous, Eva.
Attention, allez-y.
Et je m'excuse d'avance si mes parents m'écoutent.
Ah bah c'est faux titre.
Alors, je ne donne pas la réponse avant. Eva Rock, pas dans le cul aujourd'hui. Vrai ou faux titre?
Ah non, ça c'est vrai. La personne qui fait ce quiz aurait été incapable d'inventer ce faux titre.
Déduction brillante d'Eva Rock. Effectivement, c'est un vrai titre de livre. Je lis pour vous la quatrième de couverture. Ce livre raconte la rébellion extraordinaire d'une femme face à l'ambiance étouffante qui règne en Tchécoslovaquie d'après-guerre. Véritable manifeste pour la liberté individuelle. Dans les années qui précèdent le printemps de Prague, Jana Cerna, en refusant de se soumettre à la primauté masculine, affirme aussi son souhait d'une sexualité non séparée des sentiments et de l'activité intellectuelle. Comme quoi, il ne faut vraiment pas juger un livre à son titre. Enfin, cette question va vous départager. Vous êtes au coude à coude, c'est du jamais vu dans l'histoire du quiz. Aurélie Valogne, tu me fais mal avec ton coude, justement. Vrai ou faux titre?
Faux titre.
Réfléchissez bien, Aurélie, regardez-moi.
Alors, vrai titre.
Vrai titre. Oui, fabuleux. Alors, on part le quiz sur le fil. Sur le fil. Vrai titre, sorti en 2006, un livre de Stéphane Lévy-Quentz, La compagne repentie d'un militant pro-fasciste, propose une réflexion sur la virilité qui a toujours fait le lit des hordes totalitaires. Comme quoi, parfois, on peut juger un livre sur son titre. Bravo donc.
D'ailleurs, pardon.
Aurélie.
Oui, pardon.
Mais intervenez dans mon texte.
Oui, non, pas dans votre texte. Pas dans votre texte. Mais Aurélie, est-ce que vous galérez pour trouver les titres de vos romans?
Alors, à votre avis?
Oui, à mon avis, oui, parce que ça doit être extrêmement compliqué.
À la fin ou avant d'écrire le roman?
Ça dépend. L'année sous une bonne étoile, je n'avais pas d'autres titres. Il s'est imposé à moi, c'était celui-là. Je pense qu'il y avait du Hayam, il y avait plein de choses dans la tête, donc c'était une évidence. Mais dans les orties, je l'ai trouvé après avoir écrit. Donc, ça dépend vraiment en fonction du roman. Mais j'ai vraiment besoin, moi, de me laisser, d'avoir le roman parfois finalisé pour pouvoir me dire... C'est toujours le titre que j'avais en tête ou pas. J'ai toujours un titre de travail, parfois c'est pas forcément le bon.
Axel de Tarlé la regarde avec une jalousie palpable, lui qui n'a vendu que 127 exemplaires de son dernier livre. La star de l'édition française, Aurélie Valogne, reste avec nous. Consolez-vous Axel en imaginant les impôts qu'elle paye. À suivre, depuis la rentrée, vous êtes nombreux à vous mobiliser pour cette opération caritative qui nous tient particulièrement à cœur à Europe 1 et qu'on appelle le Evaton.
En effet,
bossant 20h sur 24, Eva Rock n'a techniquement pas le temps de trouver un mec. On a donc lancé un appel à candidature, le 39-21 est déjà saturé. On a varié les supports en inscrivant Eva sur Marmite Love, le site de rencontre par affinité culinaire. Et si vous rencontriez l'âme sœur, non pas sur une appli, mais au supermarché, c'est la nouvelle tendance. On vous explique tout après ce titre qu'Aurélie Valogne a dû écouter en écrivant son dernier roman, La Bonne Étoile, M sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage, 2 heures de rire, d'infos, mais aussi d'amour. Et si pour le trouver, vous n'alliez ni sur une appli, ni dans un bar, ni dans une discothèque, mais tout simplement dans un supermarché. Deux regards qui se cherchent, deux caddies qui se frôlent, une maladresse calculée et hop, on fait choir dans le caddie de l'autre une saucisse de morceaux à l'ail, comme un habile clin d'œil, et fatalement séduite, l'autre s'exclame.
Elle est magnifique.
Le supermarché comme lieu de drague. Bonjour Lionel Gougelot.
Salut Mathieu, bonjour à tous et bonjour à votre invité.
Alors c'est quoi l'idée exactement de ce supermarché de la drague?
En fait, elle est toute simple, cette idée. Philippe a disposé à l'entrée de son magasin, le magasin Intermarché Gambetta à Lille. Il a disposé des paniers verts au milieu des paniers orange, qui sont la couleur majoritaire hein, de l'enseigne. Des paniers verts donc avec un petit panneau explicatif. Si vous prenez un panier vert pour faire vos courses, eh bien, c'est que vous êtes célibataire et donc disponible pour une rencontre, voire
c'est
même
génial.
À la recherche de l'âme sœur.
Les supermarchés comme lieu de rencontre, au milieu des boîtes de conserve et des surgelés, on fait mieux quand même en matière de romantisme.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la société d'aujourd'hui. Hein. En fait, figurez-vous que Philippe est parti d'une étude qu'il a lue, selon laquelle le supermarché serait l'un des 10 principaux endroits où les couples se forment. Alors effectivement, ça ne fait pas vraiment rêver, mais il s'est dit, finalement, pourquoi pas, pourquoi ne pas faciliter les choses pour ceux qui sont à la recherche d'un conjoint.
Ici, on a beaucoup de gens seuls, des habitués, et on a aussi beaucoup d'étudiants. Et ça, ça les fait sourire. Il y a 15 jours, au moment de la Saint-Valentin, c'était assez amusant parce que c'est le jour des amoureux. Et puis, il y a toujours des personnes qui viennent et qui prennent le panier vert. Donc voilà, tant mieux si ça peut les faire espérer. Et puis, je l'espère, les faire rencontrer l'âme sœur.
Un jour, vous serez peut-être invité au mariage ?
Peut-être, avec plaisir. Pourquoi pas ?
Alors, attendez, en fait Lionel, dans le magasin, les célibataires peuvent se repérer. C'est ailleurs que les couples se forment. C'est pas au rayon surgelé, ils se pécho pas directement. Quoi.
Effectivement, c'est l'évidence. En fait, c'est pour ça que Philippe ne voit pas vraiment le résultat de son initiative. D'ailleurs, en règle générale, il reste plutôt discret, même devant certains comportements.
J'en ai même vu aussi qui seuls prennent un panier vert et qui, avec leur compagne, deux ou trois jours après, prennent un panier orange. Voilà. Mais bon, après, ça ne me regarde pas.
Ça ne nous regarde pas, effectivement. Ah, figurez-vous que quand je suis rentré dans le magasin hier soir, j'ai entendu ça diffusé dans les haut-parleurs. C'est dingue, hein.
Et ça, c'est une simple coïncidence. Ils diffusent volontairement des musiques qui nous incitent à prendre le panier vert.
C'était juste une coïncidence. Pour terminer, j'ai un petit message pour Eva. Je peux lui transmettre en MP l'adresse précise du supermarché.
D'accord.
C'est ouvert tous les soirs jusque tard en soirée. Puis
c'est dans un quartier,
tout ce qu'il y a de sympa.
Et Lionel, est-ce que je peux tricher? C'est-à-dire, est-ce que je peux prendre le panier orange pour me balader? Genre, je ne suis pas célibataire. Je vois qui éventuellement a un panier vert. Si j'en repère un bien, je repars à l'entrée et je change.
Toutes les stratégies sont acceptées dans le magasin. Il est très, très ouvert, hein, d'un point de vue, comment dirais-je, mentalité. Philippe, d'accord, il est vraiment très ouvert.
Bah, j'arrive tout de suite. Oh, il va falloir bien s'habiller pour aller au supermarché maintenant. Bon sang.
Tout ça me laisse sans voix. Eva, je vous laisse, je vous imagine dans les rayons de ce supermarché avec votre petit panier vert. Une bien belle image. Merci Lionel Gougelot d'avoir donné des bonnes idées à Eva.
Europe 1.
Elle a vendu des millions de romans. C'est une des romancières françaises les plus populaires au monde. Son dernier livre, Né sous une bonne étoile, sort aujourd'hui. Il était évident qu'Aurélie Valogne ne pouvait être ailleurs que dans L'Équipée sauvage cet après-midi. Une deuxième heure se profile pour nos concurrents au titre de chroniqueur du jour. Deux nouveaux journalistes vont nous rejoindre. On fera l'éloge du gras pour en finir avec les diktats de la mode. Et puis on vous révélera que la Lune n'est pas le seul satellite de la Terre. Ève Roger et Alain Sirou arrivent. Anis Mbida et Axel de Tarlé vont leur céder la place. Axel qui n'arrive toujours pas à croire qu'Aurélie vend des millions de livres.
Des millions. Des millions. Vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà, un million?
J'adore.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
C'est le repos des justes pour nos vaillants gaillards. L'heure de souffler un peu pour ces journalistes qui, chaque après-midi, au service de votre culture G, se mettent joyeusement sur la gueule dans L'Équipée sauvage. Un seul sera sacré chroniqueur du jour à l'issue de cette émission. Une émission qui évolue toujours sur le fil, tel un équilibriste bourré. Entre rigueur journalistique et divertissement pur, nos invités eux-mêmes ont parfois du mal à trouver les mots justes dans ce contexte hybride, comme notre ami Bernard Werber, qu'on recevait au lendemain de la mort de Chirac. Bernard Werber, vous avez ressenti quelque chose de particulier quand vous avez appris le décès de Jacques Chirac?
Je vous avouais, non.
Et oui, la fête continue pour probablement un des plus beaux hommages qui lui étaient rendus.
Europe 1,
16h-18h, L'Équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Quand la soif d'apprendre se conjugue à l'impérieux besoin de décompresser, vous écoutez L'Équipée sauvage. Deux heures de détente zygomatique servie sur un lit de culture. C'est comme si on avait voulu créer un mix d'envoyé spécial et de vidéogag.
Le tout présenté par Nabila.
Bon, non, n'allez pas trop loin, Eva, n'allez pas trop loin quand même. Eva Rock est avec moi, ainsi que notre invité arbitre du jour, qui tout à l'heure votera pour son journaliste préféré, une des romancières les plus populaires de France, Aurélie Valogne. Après En voiture Simone, Mémé dans les orties, vous publiez aujourd'hui Né sous une bonne étoile. On continue de parler de ce nouveau roman et plus globalement de vous, Aurélie Valogne. Juste le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. À ma gauche, jadis, elle n'entrait dans ce studio que sur cette musique. Elle était l'indétrônable leader de notre championnat. Mais voilà, mi-décembre, patatras. Désormais, on l'appelle Poulidor. Bonjour Ève Roger.
Bonjour, c'est la meilleure place, non?
Oui, on verra ça à l'issue du championnat. Vous êtes la chef du service Société d'Europe 1 et aujourd'hui, vous le clamez haut et fort, vive le gras.
Ah bah oui, alors moi je dis bravo à toutes ces femmes qui ont un petit bourrelet sur le ventre, vous savez, il faut le garder, il faut le bichonner. Alors,
j'en connais aussi.
On en parlera et contrairement à ce qu'on peut croire, ce petit bourrelet nous veut du bien.
Le gras n'est pas forcément mauvais pour la santé.
Voilà, exactement.
Je sens que je vais adorer cette soirée. Toute la journée a été très bien, mais là, ça va être l'apothéose.
Pareil.
Définitivement.
À ses côtés, Aurélie Valogne, s'il est clair que son opticien Optique 2000 l'a arnaqué en lui faisant croire que ce qu'il lui présentait était un modèle néo-vintage très tendance, alors que c'était juste le dernier invendu d'une série qui avait fait un flop car elle évoquait trop clairement le personnage de Derrick. Il est en revanche béton sur l'astrophysique. Je vous présente Alain Sirou, directeur de la revue Ciel et Espace.
Bonjour.
Et
bonjour.
Dit-on dans le tout Paris, excellent amant, endurant et imaginatif, quoique peut-être un chouïa directif.
En avant, à gauche, en avant,
à droite, en arrière, à droite.
Ah, ce côté germanique toujours. Hein. Ah. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Ben. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Bonjour à tous.
C'est un événement considérable Alain qui vous amène aujourd'hui. On a découvert que la Terre avait une deuxième lune. Vous avez bien vérifié Alain.
Ben oui, puisqu'on parle de nez sous une bonne étoile, je ne pouvais que parler du ciel évidemment. Et je voulais vous annoncer que notre bonne vieille lune n'est pas le seul satellite naturel de la Terre. Il y en a deux, parfois trois, parfois non. Une seule. Oui, oui.
Comment ça peut changer ?
Mais je vous dirai tout.
Oh, quel suspense ! Alors, l'apologie du bourrelet ou la deuxième lune de Tonton Sirou, quel sujet décrochera la margoulette ? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invitée, la romancière à succès Aurélie Valogne. Votre nouveau livre, Né sous une bonne étoile, sort aujourd'hui. C'est l'histoire, on l'a dit, d'un élève qui, au départ, pas très doué pour l'école et dont la vie va changer après être tombé, disons, sur le bon prof. Et vous, dans votre scolarité, êtes-vous tombé sur le bon prof ? On est allé vous poser la question.
Un prof de français qui s'appelait Madame Martin, je l'ai croisée longtemps après dans la rue et elle se rappelait de moi et je me dis, Mademoiselle Martin, je n'étais pas spécialement une bonne élève. Et elle m'a dit, vous savez, ce n'est pas les meilleurs élèves les plus sympathiques.
Il s'appelait Monsieur Billon, il était prof de français. C'est un prof qui nous faisait apprendre le français en nous faisant lire San Antonio et Gottlieb.
Désolée, l'SVT c'est vraiment très 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 ennuyant. La prof, elle parle, à son cours il y a tout le monde qui dort. Elle dit, ouais, pourquoi vous dormez et tout, mais quand on lui dit que son cours il est ennuyant, elle dit qu'il faut suivre, etc. Mais c'est ennuyant.
Ma prof de physique aussi. Je suis amie avec elle sur Instagram. Elle met des photos bizarres.
Pour faire aimer l'anglais, elle faisait des improvisations de théâtre. Hello, how are you?
Oui, je suis amoureuse de mon prof d'histoire.
Ma prof de CM1, Madame Vio. Si elle entend ça, dédicace.
Petit sondage autour de la table. Vous avez tous un prof qui vous a marqué dans votre vie.
Moi, j'en ai commencé... deux. Ouais.
Alors vous, on s'en fout. On va commencer par Aurélie.
Excusez-moi.
Alors j'ai eu la chance d'avoir d'avoir des bons profs qui m'ont marqué dans la globalité.
Plusieurs
bons profs. Je me souviens aussi très bien de ceux qui effectivement étaient ont mis 2-3 pics. Ça, j'en parle notamment dans le roman. Et je me souviens notamment, à titre plus personnel, la maman de ma meilleure amie qui était prof d'histoire, que je n'ai jamais eu en cours, qui m'emmenait partout. Dès qu'elle allait au théâtre, à l'opéra, etc., elle m'emmenait. Et c'est ça qui m'a vraiment donné le goût et la curiosité que je peux avoir développé aujourd'hui pour la littérature ou pour les arts. Donc je la remercie.
Eva Rock, nos auditeurs veulent connaître votre histoire. Quel était ce prof ?
J'en ai eu deux. J'ai eu deux profs de français qui ont été extrêmement importantes. La première, c'était en troisième. Elle m'a rendu ma rédaction. À l'époque, on appelle ça une rédaction. En me disant, et je l'ai gardée. J'ai toujours cette rédaction. C'est marqué, vous serez journaliste.
C'est vrai ?
Ouais.
Mais est-ce que vous êtes peut-être une critique ?
Et je me souviens encore du sujet, etc., etc. Et après, une prof de ma prof de français de première qui m'a inscrite en fait à un concours, qui m'a inscrite à un festival de cinéma au cours duquel je devais écrire des critiques de cinéma, faire un petit boulot de journaliste parce qu'on devait interviewer des réalisateurs.
Et
tout ça.
Et c'est le début de cette immense carrière qui vous a mené vers Télé 7 jours.
J'ai gagné le concours.
C'est vrai ?
Ouais, de critique de cinéma. Non, mais vraiment, et ça a été déterminant. Je suis très sérieuse.
C'est les larmes aux yeux que je pose la question à Alain Sirou. Est-ce que vous aussi, Alain, vous avez eu un prof qui vous a marqué ?
Ouais, j'ai un prof de maths qui m'a montré la lune. Depuis, je suis jamais revenu. Oh, mon Dieu. C'est vrai.
Vous aviez déposé de main courante d'ailleurs à l'école. Eve Roger.
Alors moi, c'est Monsieur Philippe. C'était en CM2 à l'école du Chêne d'Aron à Nantes. Et Monsieur Philippe m'a interdit d'utiliser le verbe être quand il fallait décrire quelque chose.
Ah oui.
Depuis,
je
passe mon temps à changer. Voilà. Vous allez voir d'ailleurs dans ma chronique, peut-être que. J'ai pas mis être.
J'espère que le professeur n'écoute pas. Combien d'exemplaires vendra-t-elle de son nouveau roman Né sous une bonne étoile avec les copains ? On est tout cœur avec elle. La romancière à succès Aurélie Valogne passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, l'inoubliable, l'impérissable Jean-Pierre Marielle, à qui les Césars, décidément très inspirés cette année, ont décidé de rendre un hommage de 17 secondes. C'était mon coup de gueule. Jean-Pierre Marielle, donc, disait, tout en s'enfilant une formidable tranche de pâté en croûte.
Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Et si plutôt qu'à le traquer comme un malpropre, on se mettait à aimer le gras ? Loin des dictats de la mode, il ne faudrait pas oublier qu'il y a du bon dans le gras. Eve Roger a enquêté. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous êtes au cœur de l'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1. 2 heures d'infos et d'humour menées tambour battant par un présentateur dont tout le monde s'accorde sur le talent. Et à l'instar de Cadmerade, notre invité vendredi dernier, qui disait de moi à l'issue d'une énième pirouette verbale certainement brillante.
Il est bon, hein ? Il est balèze, hein ? Il n'est pas que con.
Bon, bref, son talent fait un peu plus l'unanimité que le mien. On est heureux de passer l'après-midi avec une des romancières les plus lues de France, Aurélie Vallone. Vous publiez aujourd'hui « Née sous une bonne étoile » chez Mazarine. On continue d'en parler. Mais l'heure est venue d'écouter notre troisième concurrente du jour. Elle souffre du syndrome Gilles de la Tourette, ce qui rend la performance qui va suivre d'autant plus méritoire.
Pipette, la blanquette.
Oui, Ève, respirez fort.
Zézette.
Oui, on y va, on y va. Aujourd'hui, Ève, vous réhabilitez un mal-aimé, le gras. On a une vision du gras qui est complètement... C'est pas seulement esthétique, c'est on pense que le gras, c'est mauvais pour la santé.
Et voilà. Mais alors, cet éloge du bourrelet m'est venu parce que vous allez voir arriver dans les librairies des tas de bouquins qui disent la même chose avec des titres réjouissants. « Le monde merveilleux du gras » chez Erol. « Le charme discret de notre graisse » aux éditions Actes Sud, en écho au charme discret de l'intestin. Oui. Alors, pourquoi tant d'égards pour ce petit bourrelet? Vous remarquez, on dit toujours « petit » parce qu'il est sympa, il est utile et inoffensif. On verra après à quelles conditions. Alors, pourquoi il est bourré de qualité, ce gras? D'abord, parce que c'est un réservoir d'énergie. On a tous entre 10 à 15 kilos de graisse sur nous. C'est l'équivalent de 80 000 calories qu'on a en nous en cas de pépin, quand on est malade, en cas de famine. Alors c'est vrai, c'est un peu moins courant. Et ça veut dire qu'on peut rester sans manger entre 30 et 40 jours. Et ça, c'est très important. 30 et 40 jours grâce à
nos kilos
de graisse.
Ça, je vous le confirme.
Non, mais ça, c'est psychologique. Et puis, cette masse formée par 50 milliards de cellules adipeuses communique avec tous nos organes, avec notre cerveau, par exemple, pour nous dire, pour réguler nos comportements alimentaires. Ce petit gras, on dit toujours petit, sécrète aussi des hormones pour favoriser la fertilité chez les femmes. Et pour toutes celles qui se désolent de voir arriver ce petit bourrelet à partir de 50 ans, c'est inéluctable, je vous le dis. C'est même pas la peine d'essayer de lutter contre. Qu'elles se réjouissent, car contrairement à ce qu'on croit, il amortit les effets secondaires de la ménopause.
Oui, il a marqué aussi d'autres choses, d'autres circonstances, mais ça, on visualise très bien. Oui.
Enfin, il nous protège des centaines de polluants que nous rencontrons chaque jour. C'est-à-dire qu'au lieu que ces polluants viennent attaquer nos organes, eh bien, ils restent dans cette graisse, ils les stockent. Donc, c'est ça qui fait que...
Oh, j'ai acheté un Dyson, moi, pour ça. Il y aurait pas de graisse utilisée pour filtrer les trucs. Ah, si j'avais vu, ça m'aurait pas coûté 650 balles.
On parle des femmes, Mathieu, pour l'instant.
Comment c'est on parle des femmes?
On parlera des hommes ensuite. Mais attention, tous ces avantages que je vous décris là avec beaucoup de délectation, c'est à certaines conditions.
Alors, comment on sait si notre bourrelet, là je parle d'un point de vue théorique, moi personnellement je n'en ai pas, comment on sait si ce bourrelet n'est pas trop gros?
Eh bien voilà, parce qu'après, s'il est trop gros, eh ben, tous les effets positifs s'estompent. Alors on va faire une petite étude de cas avec Laurence Plumet, qui elle a écrit Le Monde merveilleux du gras, elle va nous dire comment on sait si notre bourrelet est trop ou pas assez gros.
Ben, tout simplement, on le prend à main nue. Tant qu'il est là de façon tout à fait modeste et discrète, ça va, il n'y a pas à s'inquiéter. Quand on saisit son petit bourrelet à pleine main, qui commence à occuper une bonne partie de la main, et qu'on voit que le ventre derrière n'est pas plat, mais qu'il est bombé, ça veut dire que nous commençons à avoir de la graisse profonde.
Alors, est-ce que vous avez compris? En fait, il faut le prendre, et si la main est pleine, c'est que ça, c'est pas bon.
Bah, si on a des petites mains.
Votre main sont à peu près proportionnées à votre bourrelet.
Non, moi j'ai des petites mains par rapport à mon corps. C'est pour ça que ça me paraît ce bourrelet gros, alors que pas du tout.
Il faut s'auto-tester, parce que si tu prends la main...
De quelqu'un d'autre.
Ouais, ça marche. Ouais.
Qui veut toucher mon bourrelet?
Mettez un peu de clim dans ce studio, s'il vous plaît.
La graisse profonde, et voilà. Et voilà, c'est le début de la catastrophe. Elle ne reste plus en surface, mais va se déposer sur les organes, et ça ne leur fait pas du bien. Sur la paroi des artères, par exemple. Et la graisse, alors, commence à fabriquer des maladies bien connues. Celles que vous avez en tête, le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Et là, il faut faire quelque chose... absolument tout de suite, parce que c'est vraiment dangereux pour la santé. Donc faire quelque chose, c'est surtout pas de régime restrictif, comme on dit, mais du sport, et beaucoup. Une heure de marche par jour et 2 à 3 séances de gym par semaine.
Est-ce que c'est pareil pour les hommes?
Alors eux, ils ont moins le petit bourrelet que les femmes. Ils n'arrivent pas à la cinquantaine comme nous les femmes, c'est une histoire hormonale. Mais là, grâce à Laurence Plumet, j'ai découvert quelque chose qui m'a émerveillée. Vous savez pourquoi les hommes, ils ont... Le ventre, quand ils sont gros, ils ont un ventre gros et dur. Et non pas le petit bourrelet douillet comme les femmes.
Ils ont le bidon, quoi.
Et bien, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la graisse, elle se cache derrière la ceinture abdominale. Donc, devant, il y a les abdos et derrière, il y a le gras. Et c'est pour ça que les hommes...
Bah, je redis l'inverse, moi. Ah oui, d'accord.
C'est parce que le gras se cache sous la ceinture abdominale.
On pourrait imaginer quelqu'un qui a des tablettes de chocolat, mais
c'est ça.
Au sommet d'un ventre proéminent. Et voilà. Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, qui a la spécificité de manger dans un restaurant gastronomique le midi et le soir, vient d'arriver et il nous montre son ventre pour nous prouver que ses abdos sont bel et bien. Là, on fera un test grand nature tout à l'heure, vous ôterez votre petit pull.
Et la graisse en dessous.
Et la graisse en dessous.
Voilà la différence entre les hommes et les femmes.
Mais finalement, on n'est pas mieux lotis.
Non, c'est pas mieux parce que c'est pas très joli ce gros ventre dur, voyez, chez les hommes. Enfin, vous l'avez pas, vous êtes parfait.
Je vous remercie, Ève, parce que vous avez failli déraper. Eva, je sens que ce sujet vous inspire.
Oui, Est-ce que je suis en train de me dire que tous les efforts que je fais, tous les abdos que je fais, dans bientôt, parce que j'ai bientôt 50 ans, c'est mort, quoi.
Mais arrêtez de dire que vous avez bientôt 50 ans.
Bah si, quand même.
Vous en êtes très loin, Eva, rappelons-le. Eva-t-on 3921, continuez d'appeler. Merci, Eve Roger. Votre réhabilitation du gras vous permettra-t-elle de retrouver cette première place qui a longtemps été la vôtre? Seul l'avenir et notre invité nous le diront.
Europe 1.
Voilà plus d'une heure que je papote avec elle, alors pour ce soir mon projet est clair, me glisser sous la couette avec Aurélie Valogne. Enfin je veux dire, avec le roman d'Aurélie Valogne, né sous une bonne étoile, mais vous, je vous connais, incorrigible télévore, vous aurez certainement envie de vous planter devant un écran. Alors que regarder ce soir à la télé? Eva Rock nous guide dans la jungle des programmes et cessons de taper sur la télé-réalité. Certains candidats des Marseillais à Miami, dont on s'était moqué à l'époque, étaient en fait précurseurs. Alain Siroux va nous expliquer tout à l'heure qu'on a découvert que la Terre avait une deuxième lune. Chose que savaient déjà les Marseillais à Miami.
Vous savez qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas?
Oui, je pense, oui.
Moi, je pensais qu'il y en avait moins de deux. Ouais, mais oui. Si la lune, elle est là, comment tu veux qu'elle soit aussi en France?
Mais elle est en France de 3 heures de décalage.
Et oui, y a-t-il une, deux, voire trois lunes? La réponse, juste après Lewis Capaldi, Before You Go sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui est à l'audiovisuel français ce que les jeux du cirque étaient à l'Empire romain. Quatre journalistes avec pour seul glaive, leur stylo bic quatre couleurs et leur seul talent pour bouclier. Ils défilent au micro, celui qui vous aura proposé le meilleur papier sera sacré chroniqueur du jour. Quant aux autres, aux perdants, comme dirait Patrick Cohen, il tremble.
Et se prépare à l'issue fatale.
En attendant ce funeste dénouement, on continue d'analyser l'incroyable succès de notre invitée Aurélie Valogne, dont les romans se vendent comme des petits pains. Et vu la mode du sans gluten, je dirais même mieux que des petits pains aujourd'hui. Le dernier s'appelle Né sous une bonne étoile. Il sort aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est chez Mazarine, on va citer l'éditeur, parce que c'est intéressant. Vous avez commencé en ligne, chez Amazon en fait. Et pourquoi être passé de l'édition numérique à l'édition traditionnel, sachant que, si j'ai bien compris, on était mieux rémunéré en tant qu'auteur via Amazon?
Alors, en fait, moi, j'ai jamais vraiment choisi de passer par l'auto-édition, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, moi, je cherchais l'avis neutre de lecteur.
Le contact des lecteurs.
Voilà, le contact direct, sans filtre. Ils aiment, ils n'aiment pas. Et voilà, pour avoir un avis sur mon roman. Et donc, effectivement, ça s'est emballé très vite. Mais c'est vrai que très rapidement, l'objectif ultime, c'est de voir son livre imprimé et de l'avoir en librairie. Donc, c'est vrai que je ne renie absolument pas ce tremplin extraordinaire qui a été l'auto-édition. Et je le recommande notamment à ceux qui chercheraient des solutions. Mais après, non, effectivement, ma fierté aujourd'hui, c'est de pouvoir voir mon fils qui me dit « Regarde, maman, ton livre, il est là. » Et pas seulement dans un monde un peu virtuel.
Alors, Musso, Lévy, ils sont tous adaptés en série télé. Est-ce que vos livres, est-ce que vos romans vont l'être? Est-ce que c'est dans les tuyaux?
Alors, j'ai été approchée par des producteurs, pas tellement pour des séries télé, plus pour des films. Après, ça prend du temps. C'est un monde compliqué. Il faut savoir être patient. Donc, je sais que ça se fera un jour. Mais
lequel? Il y en a un en particulier, vous pouvez nous le dire?
Un des premiers. Mais pour l'instant, voilà, je ne...
Alors, les premiers, c'est soit Mémé dans les orties, soit En voiture Simone. Ouais. Je veux déjà dire, il y a peut-être un rôle pour vous là-dedans. Minute Papillon.
La voiture Simone.
Je ne sais pas lequel c'est. Alors, le saviez-vous, Aurélie Valogne, selon une étude de l'Université d'Oxford, on passe désormais tous en moyenne 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir justement ce qu'on va regarder sur Netflix ou sur les plateformes auxquelles on est abonné. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock et sa rubrique qui nous sauve tout le temps.
Je voulais vous faire partager un gros coup de cœur aujourd'hui pour un documentaire qui est diffusé tout à l'heure à 20h50 sur Canal Plus Family. Le film est intitulé « Une vie nous sépare ». Il est signé Baptiste Antignani. Alors Baptiste, il a 19 ans. Il a toujours filmé des bouts de son quotidien avec son portable. En 2018, son prof d'histoire organise un voyage à Auschwitz. Et là, eh bien, rien. Baptiste ne ressent rien, aucune émotion. Et cette absence d'empathie, en fait, va le tracasser. Il décide alors de se renseigner sur Denise Holstein. C'est une rescapée des camps. Et elle a été scolarisée dans le même lycée que lui, à Rouen. C'est une dame qui est aujourd'hui âgée de 92 ans. Elle vit à Antibes. Et pendant 9 mois, donc, Denise et Baptiste vont correspondre, vont se parler par téléphone. Et puis le jeune homme finit par partir à sa rencontre 10 jours pour recueillir l'histoire de Denise sur les bords de la Méditerranée. Il va ranger un placard dans lequel elle a entassé tous ses papiers, les lettres de ses parents déportés et des lettres notamment qu'elle n'a plus ouvertes depuis des années. 75 ans les séparent et pourtant, eh bien, le dialogue va s'installer entre eux. Denise, elle parvient à parler de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent et elle se laisse aller à quelques confidences.
Si je compte dans ta vie, pour moi, c'est magnifique. J'espère que quand vous allez reprendre le train pour Rouen, ce ne sera pas la dernière fois qu'on se rencontre.
Mais non.
ça me manquerait beaucoup.
Et oui, ils vont vraiment s'attacher l'un à l'autre. J'ai été extrêmement émue par ce film, ce dialogue entre ce jeune homme et puis cette dame au regard malicieux, touchée aussi par les conséquences de cette rencontre. Parce que devant la caméra, on va assister à une libération de la parole de la part de Denise, qui pour la première fois va évoquer son passé avec ses filles et ses petits-enfants, ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'à présent. C'est un film à regarder avec vos enfants, à montrer dans les écoles aussi. Il y a aussi également les éclairages d'Annette Vivorca et Serge Karsfeld dans le film pour accompagner tout ce récit. Et une histoire à découvrir aussi à travers un livre, Une vie nous sépare, donc du titre du documentaire qui est publié chez Fayard. Le documentaire est à voir sur Canal Plus Family ce soir ou sur mycanal.fr pendant un mois avant une diffusion sur France 3. Une vie nous sépare, même le titre est très joli. Voilà.
Et voilà, 17 minutes de gagner une fois de plus grâce à vous, Eva Rock. Europe 1. Les Marseillais à Miami en ont eu la certitude bien avant la NASA. La Terre ne compte pas une, mais deux lunes. Pour nous raconter cette folle découverte, Alain Siroux, le directeur de la revue Ciel Espace, se prépare. Quelques assouplissements pour celui qu'on surnomme le MacGyver du News.
C'est le seul type qu'on peut prendre par les pieds avec une pince à sucre et qui est capable de réparer la chaudière à l'envers.
On ne sait pas que ça sert, mais il peut faire ça.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Règlement de compte à l'heure du goûter aurait pu être le titre de cette émission. Chaque après-midi, sous l'œil, tantôt choqué.
C'est atroce de se noter entre amis.
On n'est pas amis.
Tantôt, au contraire, excité.
Chaud comme une baraque à frites.
Mais d'un vraiment. Invité d'honneur, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se défient. Aujourd'hui, c'est la romancière à succès qui a réussi à vendre plus de livres que Marc Lévy en 2018. Aurélie Valogne qui nous accompagne pour la sortie de son dernier roman, Né sous une bonne étoile aux éditions Mazarine. C'est votre sixième roman. Est-ce que vous avez, maintenant que vous êtes une pro de la littérature, des rituels d'écriture? Vous écrivez chaque jour sur un créneau régulier ou vous écrivez quand l'inspiration vous vient?
Alors, en fait, moi, ce que j'appelle travailler, je le fais sur le temps de mes enfants, le temps scolaire de mes enfants. Donc, je dépose le matin à 8h30. J'écoute la radio, je lis le journal. Et puis après, je commence à travailler de 9h30 jusqu'à 16h.
Toujours, qu'il y ait une idée ou pas.
Ah oui, tous les jours, tous les jours. Et après, je ne me mets pas devant l'ordinateur, je travaille.
Alors, vous faites quoi ?
C'est là où, quand on est écrivain, travailler, ça veut dire beaucoup de choses. Et en fait, ma phase d'écriture se divise un peu en deux grandes parties. J'ai à peu près 4 mois de réflexion, de lecture, d'interview. Je vais sur le terrain, j'interview des profs, des orthophonistes, etc. Donc vraiment une grosse partie de recherche pour étayer mes personnages. Et après, j'ai une partie plutôt de 2 mois d'écriture dans l'ordinateur du premier jet. Mais je ne commence pas l'écriture tant que je n'ai pas mon plan, le fameux plan que recommandait Bernard Werber. Et donc toute cette partie-là se fait avec un crayon dans mon fauteuil à gribouiller. Et j'ai l'air d'être complètement dilettante. Et en fait, pas du tout.
Est-ce que c'est angoissant pour vous?
Non.
Cette période de l'écriture, on dirait pas du tout, c'est étonnant.
Non, c'est pas du tout angoissant. Et c'est pour ça que je peux pas avoir la peur de la page blanche, parce que j'ai tellement de préparation en amont qui se fait de manière assez relaxe. J'ai des carnets, je gribouille, je fais des petites bulles qui partent dans tous les sens, ce que mon personnage aime, ce qu'il n'aime pas, etc. Que quand j'arrive devant mon ordinateur, je sais exactement ce que je dois écrire, chapitre 1, qui parle, qui dit quoi. Et je déroule le film dans ma tête et je le tape à l'ordinateur. Donc pas du tout stressant.
Alors Aurélie Valogne, comme nous tous, vous étiez, je pense, restée sourde aux appels des astrophysiciens des Marseillais à Miami qui, en 2015 déjà, nous alertaient sur l'existence d'une deuxième lune, une lune cachée en orbite autour de notre planète. Et bien, c'est de cette incroyable découverte que va nous parler à présent notre ultime concurrent du jour. Un scientifique éminemment rigoureux, directeur de la prestigieuse revue Ciel et Espace, même si, attention, Alain Siroux sait également s'amuser. Il n'est pas rare qu'à la fin d'un repas bien arrosé, après une petite prune, il propose à ses convives un jeu rigolo et coquin de son invention. C'était très sympa samedi soir.
Vous allez imaginer un cube. Ce cube, il a des faces. Et puis sur une des faces, on a collé une sorte de petite pastille. Ouais. On pose ce cube sur la table et vous allez vous concentrer sur ce cube. Vous allez l'imaginer. Vous allez faire rouler le cube. Vous avez le cube dans la tête. Allez, à gauche, en avant, à droite, en arrière, à droite. Où est la pastille?
Mais voilà, Alain, il y a un temps pour s'amuser entre amis consentants et un temps pour bosser. Ce soir, la question se pose, avez-vous vu deux lunes à l'issue de la soirée où il y a vraiment deux lunes dans le ciel, Alain?
Alors, il y a vraiment en ce moment deux lunes dans le ciel. Il y en a une qui est visible et l'autre pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire une lune? Ça veut dire un satellite naturel. Bon, un satellite, c'est quelque chose qui tourne autour d'une planète. Ça peut être un satellite artificiel, on en connaît 4000, puis un satellite naturel, c'est la lune. Et on sait aujourd'hui, donc c'était la découverte annoncée cette semaine, qu'il y a une deuxième lune. Alors, elle s'appelle 2020 CD3, vous voyez, c'est un acronyme, qui tourne en 47 jours, qui est présente depuis, on sait, à peu près 3 ans. Puis ce qui va vous faire rire, c'est que ça...
Elle est récente, elle est arrivée.
Elle est récente et elle a la taille à peu près d'une voiture.
D'accord.
Donc, c'est une poussière, c'est un tout petit caillou. Alors, comment... Pourquoi c'est intéressant?
C'est un bloc rocheux.
Oui, sans doute, c'est ce qu'on appelle un morceau... Non, mais le mec dit ciel et stas.
Non, mais on ne peut pas y aller, c'est trop petit. Vous voyez ce que je veux dire.
Je vous demande pas d'y aller, Alain, je vous demande juste de la décrire.
Alors, oui, mais je peux pas vous décrire ce que je n'ai pas vu. On a pour l'instant une lumière, c'est-à-dire la photo, c'est un tout petit point. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on a découvert ça. Vous savez que des planètes tournent autour du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, on a oublié Pluton, et qu'entre Mars et Jupiter, il y a ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes, c'est-à-dire des millions de cailloux, des petits, des gros, qui vont de quelques kilomètres à quelques mètres.
À quelques kilomètres, quand même.
Ah ouais, et qui tournent comme une planète qui serait pas constituée. Puis de temps en temps, par des modifications, des attractions gravitationnelles, certains se mettent... sur une orbite qui peut croiser la Terre ou qui fonce vers le Soleil. Donc, il y a des perturbations gravitationnelles. Et des astronomes, un jour, se sont dit, mais est-ce que, finalement, ça pourrait amener des astéroïdes, donc des cailloux, à se mettre en orbite autour de la Terre de façon naturelle ?
Si je comprends bien, si je vous suis, Alain, cette chose, cet élément rocheux, tel que je l'ai décrit, puisque moi-même, je taquine un peu l'astrophysique, et c'est en fait comme une météorite ou un truc qui serait arrivé vers nous, et au lieu d'arriver sur la Terre ou de dissoudre dans l'atmosphère, ce serait mis à tourner autour de nous.
C'est exactement ça. Et c'est très difficile à faire parce qu'en fait, il faut une vitesse particulière, il faut un angle particulier. Il ne faut pas que ça arrive trop vite, sinon ça rebondit, etc. Mmh. Donc d'abord, ils se sont amusés à faire ça sur ordinateur. Ils ont pris des milliards d'astéroïdes potentiels et ils ont découvert qu'en fait, ça devait être fréquent. Il devait y en avoir un ou deux qui arrivaient peut-être chaque année. Et ils se sont dit, on va les chercher. Ils se sont mis à les chercher avec des grands télescopes et ils ont découvert pour la première fois, donc c'était en 2006, un caillou, un astéroïde de quelques mètres de diamètre qui tournait autour de la Terre. On a dit, ah, ça y est, on a trouvé une deuxième lune.
Et puis, on l'a dit vraiment comme ça, comme Michel Serrault dans la cage aux
folles. Oh, on a trouvé une deuxième lune.
Exactement.
C'est fou. Et là, on a évidemment encore découvert un nouvel objet comme ça. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que d'abord, il peut y en avoir deux, trois. Encore faut-il les attraper, c'est pas facile.
Mais on les attrape avec quoi ?
Les attraper, les voir.
Mais on peut pas, parce que là, on pourrait décrocher la Lune.
Oui, on pourrait la décrocher, mais elle est quand même un petit peu assez loin, mais vous avez raison. Et puis surtout, ça ne reste pas, c'est-à-dire ça repart.
Ah, mais ouais,
c'est-à-dire
que, partout.
Oui, il y a des. Alors ça repart dans l'espace, c'est-à-dire il y a des instabilités. Ce qui est intéressant au bout du compte, c'est finalement notre Lune à nous. Pourquoi est-ce qu'elle est là ?
Pourquoi elle ne se détache pas, elle ?
Pourquoi est-ce qu'elle reste ? Ouais. Comment elle s'est
formée ?
Parce
qu'elle est trop grosse pour partir.
Et ce qui est rigolo, c'est de savoir que 50 ans après que l'homme est débarqué sur la Lune, on ne sait toujours pas exactement comment, il y a 4,4 milliards d'années, elle s'est formée, d'où elle vient. Alors on pense que c'est le résultat d'une collision entre un objet qu'on appelait Theia et puis la Terre primitive, qui a formé un disque de débris, ça s'est aggloméré. Oui.
Attendez Alain, parce que là une question me vient, peut-être que je vais passer pour un énorme con, mais juste la Lune, est-ce que la Terre a déjà existé sans la Lune ? La Lune s'est formée après la Terre ou en même temps simultanément ?
Alors on pense que la Lune s'est formée un tout petit peu après la Terre, 100 millions d'années après.
D'abord, 100 millions d'années, c'est énorme, donc longtemps la Terre n'a pas eu Lune.
Non, c'est pas grand-chose, 100 millions d'années.
Donc la Lune, par exemple, on pouvait pas draguer sur la plage, c'est pas pratique ça.
En fait, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui se serait passé si la Lune n'avait pas existé ? Si la Lune n'existait pas, qu'est-ce qui se passerait ?
Est-ce que la Lune est le déclic de la vie ?
Peut-être. Peut-être que ça a pu stabiliser.
C'est vertigineux quand je pense comme
ça. Peut-être que ça a pu stabiliser. En tout cas, ça a participé.
On avance.
Et au bout du compte, alors c'est ça qui est formidable dans les enfants, la curiosité. C'est-à-dire que on prend une anecdote et on tire le fil. Et être scientifique, c'est rester enfant, c'est pouvoir poser des questions en disant « Mais d'où ça vient la Lune ? Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Pourquoi est-ce qu'elle reste alors qu'il y en a d'autres qu'on ne voit pas mais qui repartent ?» Et ça, je trouve ça, pour le compte, merveilleux.
Sans Lune,
c'est vous,
Catherine. Sans Lune, pas d'éclipse. C'est triste.
Sans Lune, pas d'éclipse. On dirait du Jean-Claude Van Damme. C'était du baroque. Bon, félicitons Alain Serrault. Alors, Alain Serrault, bravo pour ce sujet. J'espère juste que vous n'avez pas compris, parce que vous avez dit au début du sujet que la taille de cette petite lune était la taille d'une voiture. J'espère que vous n'avez pas juste confondu avec la Tesla que l'autre a envoyée dans l'espace. Alors, ce serait une légère confusion.
Non, et celui-ci est votre con statut, comme la Lune, mais chez lui, il n'y a pas d'éclipse.
Merci pas de moi. Alain Serrault. Est-ce que ce sera vous le grand vainqueur aujourd'hui ? Réponse très bientôt. Europe 1. À suivre, notre invitée, la romancière de tous les records, Aurélie Valogne, reste avec nous. Elle continue de faire connaissance avec Alain Serrault.
Un vieux monsieur bougon qui passe ses journées à embêter ses voisines.
Oui, et encore, vous avez mis de l'autre côté de la table. Nous allons répondre à cette question que votre cerveau n'a pas encore formulée clairement, mais votre estomac, oui. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Delice in extremis arrive.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Stimulation neuronale et lustrage zygomatique. Vous écoutez L'Équipée Sauvage. 2 heures pour rire, découvrir, tout en apprenant à mieux connaître une personnalité qui se raconte sans tabou, ce qui débouche parfois, comme avec Bernard Werber, sur de belles histoires feel good.
Une fois, j'avais amené mon enfant chez le pédiatre, et le pédiatre me dit « Vous avez le courage de faire des enfants, parce que je sais que dans 2 ans, vous serez séparés. » C'est la nouvelle règle.
Mais vous lui avez donné tort.
Non.
Non. J'avais tenté de vous. Alors, aujourd'hui, on le rappelle, si elle a connu le phénoménal succès qui est le sien, c'est un peu grâce au départ à l'ami Bernard Werber, puisqu'elle a écrit son premier roman après avoir suivi un de ses tutos d'écriture sur Internet. Hein, c'est ça, Aurélie ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Les 10 règles pour un bon roman. Vous les avez appliquées tout de suite, dès le premier, ça a été le cas. Appliqué absolument les consignes de Bernard Werber.
En tout cas, je me suis posé la question sur chacun des 10
sur
points.
Chacun des points.
Je les ai vraiment considérées à la lettre.
Et vous avez reversé une partie de vos droits à Bernard
absolument
Werber ?
Absolument pas.
Absolument pas, Bernard, si tu nous écoutes.
Chacun pour toi.
Chacun pour sa pomme. Alors aujourd'hui, le succès est vertigéné. On parle de millions de ventes de livres. Succès et bonne critique font rarement bon ménage en France. Est-ce qu'il y a une forme de mépris pour la littérature populaire dès qu'on vend trop, notamment dès qu'on dépasse un million, parce que c'est absolument énorme. Il faut dire que je crois qu'un Goncourt, ça vend 500 000. Enfin, c'est quasiment le double d'un Goncourt à chaque fois pour vous. Alors forcément, quand on est critique littéraire, on ne peut pas se permettre de dire que c'est bien.
Sincèrement, je ne pense pas qu'ils raisonnent comme ça. Moi, je pense aux libraires qui reçoivent effectivement, tout à l'heure on parlait de 40 000 nouveaux livres par an, ils n'ont pas le temps de tout lire, et les livres qui se vendent, entre guillemets, tout seuls, comme
oui,
des petits pains, on disait, il
n'y
a pas besoin de les lire. Donc finalement, je ne suis peut-être pas forcément lue par les libraires, et par une certaine presse peut-être, mais ce n'est pas ce qui est le plus important pour moi.
Vous dites que ce n'est pas ce qui est le plus important pour vous, mais dites-nous en toute sincérité, est-ce que même quand on vend 2 millions d'exemplaires, même quand on en vend 20 millions, est-ce que quand même, on n'a pas envie d'avoir une putain de bonne critique dans Télérama une fois? C'est pas un truc derrière lequel on court. On se dit pas, tiens, comme ça, j'aurai tout.
Alors après, on veut quoi? Une fois qu'on a la bonne critique, on veut le prix Goncourt.
Moi, je voudrais le prix Goncourt, oui.
Moi, j'ai envie de courir après rien du tout. Ouais. Donc effectivement, toutes les bonnes critiques font évidemment toujours plaisir. Maintenant, c'est pas ce qui changera ma vie. Et puis en plus, je lis pas tellement les critiques. J'aurais trop peur de ce que je peux y découvrir.
Vous avez déclaré, j'aimerais écrire encore 70 romans et sur ma tombe qu'on inscrive romancière. C'est vraiment ça, c'est quelque chose, parce que on sait que on en parlait tout à l'heure, c'était le déclic, c'est que vous imaginiez, vous rêviez de votre tombe avec écrivain.
Ouais.
Donc ça c'est encore aujourd'hui.
C'était un espèce de fantasme, une projection. Maintenant, aujourd'hui, je me pose plutôt la question de me dire, est-ce que je veux être enterrée avec mon mari? Enfin, ce genre de choses. Donc pas tellement à savoir ce que je raconterai dessus. Je trouve ça plutôt très sobre. Albert Camus a mis Albert Camus.
C'est vrai. Et c'est pas mal, finalement.
Et c'est pas mal.
Alors, Aurélie, voici maintenant dans L'Équipée Sauvage celui qui, sur sa pierre tombale, fera graver cette maxime puissante qu'on doit certainement à Saint Thomas d'Aquin ou Jean Jaurès.
J'adore les cornichons avec la raclette.
Aurélie, je vous présente quelqu'un qui, comme votre héros, était un cancre à l'école, mais lui, c'est pas un prof qui l'a révélé, c'est un caviste. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis, bonjour Aurélie.
Vous êtes rédacteur en chef à la revue de Vente France.
Défendez-vous,
cordon
Olivier,
bleu aussi.
Mais j'ai pas cancre.
Mais non. Mais c'est vrai que j'ai pas fait une scolarité brillantissime.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous voulez regarder?
Mais vous avez bien rattrapé.
On finit dans les cuisines et dans les caves, c'est pas si mal.
Alors chaque soir dans Délices Extrémis, vous nous sauvez la mise quand on a complètement oublié de penser à une recette pour le dîner. Au menu ce soir, Olivier.
Un gâteau.
Un dessert.
Un dessert et un gâteau, puisque l'un de vos romans s'intitulait La cerise sur le gâteau. Je suis désolé, j'ai pas de cerise. Mais j'ai le gâteau. C'est pas de saison, exactement. Mais j'ai le gâteau. Et je vous ai préparé un phare breton.
Pourquoi un phare breton, Olivier?
Alors, pourquoi un phare breton? D'abord parce que c'est bon. Et puis parce qu'Aurélie, vous habitez en Bretagne.
Exactement, oui.
Et donc, j'imagine que vous mangez de temps en temps les phares bretons.
Ça fait.
Je l'ai légèrement modifié parce que normalement, dans la recette du phare breton, on met des pruneaux. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de pruneaux, j'en ai pas mis, je l'ai remplacé par de la vanille. Mais il faut savoir que phare breton, phare qui s'écrit F-A-R, ça n'a rien à voir avec le phare pour les bateaux.
Oui.
Tout simplement parce que ça vient du mot latin phare, lui aussi, qui veut dire le blé. Et qu'à l'origine, cette recette était une espèce de bouillie de blé qu'on mangeait au XVIIIe siècle et qui s'est transformée par la suite, qui n'était pas un dessert d'ailleurs, qui est devenu un dessert plus tard lorsqu'on a commencé à y ajouter du lait, du sucre et puis évidemment les fameux pruneaux. C'est un gâteau qui est extrêmement facile à réaliser et qui, bah, vous allez pouvoir le goûter là, je pense que c'est pas si mauvais que ça. Alors on est parti pour la recette. Bon, pour la recette, il vous faut 250 g de farine, vous faites un petit puits, vous cassez 4 œufs dedans. Vous rajoutez 100 g de sucre. Je ne l'ai pas très sucré et je trouve que c'est meilleur comme ça parce que vous allez voir, la vanille ressort davantage. À côté de ça, vous allez faire chauffer 1 litre de lait et fondre 100 g de beurre. Dans le lait, quand il a commencé à chauffer, vous infusez un petit peu de vanille. Non, mais c'est très simple. Et ensuite, vous rajoutez le beurre fondu, le lait dans votre préparation. Vous mélangez tout ça dans un plat que vous avez préalablement beurré. four chaleur.
Tournante.
Bien sûr, 200 degrés, 40 minutes, et voilà.
Et voilà,
c'est
emballé,
c'est
pesé.
C'est facile.
Et il ne reste plus qu'à rajouter la cerise quand elle sera de saison.
Et le beurre, c'est obligatoire en plus du lait, tout ça
bah,
ou...
C'est la base de la recette.
Oui, alors là, franchement, faire un phare breton sans beurre, c'est compliqué.
Ça n'aurait aucun sens. D'accord. Et en plus, Ève Roger vous a expliqué que ce petit bourrelet.
Non, mais le bourrelet, il a déjà doublé
bon
de volume depuis que j'ai goûté le phare breton de Pouls, là.
Mais vous, très bon. Vous faites comme moi, 2 minutes 30 de gainage tous les jours. Ça vous maintient les abdominaux.
Chers auditeurs, nous reviendrons sur cette légende lancée samedi soir lors dîner un peu trop arrosé selon laquelle Olivier Pouls serait capable de faire la planche et donc gainer pendant 2 minutes 30, ce qui est absolument techniquement impossible. Mais nous le mettrons au défi, peut-être même dès demain. Merci
avec
Olivier
Pouls.
Une
petite vidéo qu'on mettra sur les réseaux sociaux. Évidemment.
Olivier, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Donc un peu de phare, tiens.
Europe 1.
C'est une tension quasi insoutenable qui règne dans le studio Coluche à l'approche du verdict final. Séquence qui débouche parfois sur des débordements. Quand, par exemple, un chroniqueur cinéma qui avait passé 2 heures à cirer les pompes d'une actrice en promo découvre qu'elle n'a pas voté pour lui et se venge en direct.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Restez, la finale arrive.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Une fois de plus, ils ont tout donné au service de votre culture générale. Nos 4 journalistes en compétition dans l'équipe est sauvage vont maintenant devoir affronter leur destin. 4 journalistes dont le sort est suspendu à votre vote et à celui de notre invitée d'honneur, la romancière Aurélie Valogne, dont on sent qu'elle a une tendresse particulière pour Alain Sirou, qui l'a profondément bouleversée avec son sujet sur l'existence d'une deuxième lune.
C'est évident qu'on peut pas le laisser comme ça, aller se coucher tranquille et dire c'est pas grave, il va s'en sortir tout seul. Non, non, il faut absolument qu'on l'aide.
C'est aussi l'avis du neurologue qui le suit à Cochin. En tout cas, c'est l'heure du qui tout double, les amis. Chacun de nos journalistes ont 10 secondes pour défendre leur candidature. Axel de Tarlet, pourquoi Aurélie Valogne devrait-elle voter pour vous ?
Eh bien, ma chère Aurélie, je compte sur ce qu'on appelle la solidarité entre auteurs. Car votre serviteur est l'auteur de l'excellent La crise est finie, Recherche midi, 14,90€ dans toutes les bonnes librairies.
Mon Dieu.
Oui. Voilà, c'était drôle. Hein, comme
C'était effectivement. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs que
bah Axel si, nous avait promis un bouquin, il est toujours en vente.
Je l'ai relu. C'est moi qui l'ai relu, ce livre.
Et il était bien, hein, avant même ta relecture.
C'était pas mal.
C'est terrible de se saborder comme ça à quelques secondes du vote. C'est terrible. Alice Mida, pourquoi voter pour vous ?
Bah, peut-être parce que c'est un hommage au livre, à Gustave et puis à Einstein, hein, qui disait qu'on a tous du génie en soi, qu'il suffit de le révéler. Et peut-être que les plateformes internet peuvent nous aider à révéler le génie qui est en chacun de nous.
Citer Einstein, ça marche toujours, surtout quand c'est dans le bouquin de l'invité. Eve Roger, pourquoi voter pour vous et votre chronique sur le gras, les vertus du gras ?
Eh bah, je regarde mes concurrents, Alice Mida, Axel de Tarlet. Et Alain Sirou, ils sont brillants, ils sont beaux, mais il leur manque quelque chose. Ben, il leur manque un bourrelet, contrairement à moi.
Bien joué, Eve. Alain Sirou, pourquoi voter pour vous et votre petite lune supplémentaire ?
Bah, parce que vous allez pouvoir raconter une histoire aux enfants, que c'est de la poésie. Et puis, je dirais, sans doute un brin d'humour aussi. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à Pierre Dac qui disait, en regardant la lune, « La preuve que la lune est habitée, c'est qu'il y a de la lumière.
Ah, » ah, ça, c'était beau. Ça, c'était beau. Oui, ça, c'est de l'humour, Axel. Dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
L'éloge du bourrelet gagne 2 points.
L'éloge du bourrelet, ça vous a plu. 2 points pour Eve Roger. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. J'hésite un petit peu, mais je vais le donner à Alain Sirou, parce que c'est lui qui m'a fait le plus rêver avec cette histoire de lune. Mais de toute façon, mon avis compte peu ici, vous le savez, c'est l'invité qui a le dernier mot, Aurélie Valogne, qui, selon vous, mérite d'être sacré chroniqueur du jour.
Alors, c'est un choix très très difficile. Je fais la petite musique de suspense. Toutes les prestations étaient de qualité, mais le conseil de classe a rendu son verdict. Et malheureusement, le grand gagnant aujourd'hui est Alain Sirou.
Ah, une fois de plus, l'équipe est sauvage avec sa lune.
C'est conseil de discipline pour Axel de Tarlet.
J'étais beaucoup pour le bourrelet aussi, j'avoue.
C'était la 126e journée de l'équipe est sauvage. On remercie notre invitée, la romancière Aurélie Valogne. Vous avez aimé la cerise sur le gâteau, au petit bonheur, la chance ou encore Mémé dans les orties. Ruez-vous sur Né sous une bonne étoile, son petit dernier paru aujourd'hui aux éditions Mazarine. Merci Aurélie d'avoir été avec nous.
Merci
cet après-midi.
Mathieu.
Merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Ève Roger, Anissa Mbida, Alain Sirou, Axel de Tarlet et Olivier Pouls. L'équipe est sauvage revient demain 16h.